Est-ce que vous avez vos Bibles aujourd'hui, ce matin, avec vous? Montrez-moi votre Bible et dites, ceci est ma Bible.
Ceci est ma Bible.
Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Non, non, mais attention, vous êtes enregistrés. OK. Je suis ce qu'elle dit que je suis.
Je suis ce qu'elle dit que je suis.
Je possède ce qu'elle dit que je possède.
Je possède ce qu'elle dit que je possède.
Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire.
Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire.
Ce matin, je recevrai.
Ce matin, je recevrai.
La semence incorruptible.
La semence incorruptible.
De la parole de Dieu.
De la parole de Dieu.
Qui entre dans mon cœur.
Porte du
fruit,
change ma vie,
et je ne serai plus jamais le même. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible où vous voulez. Moi, je vais ouvrir ma Bible dans le psaume 121. Psaume 121. Ah, cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Oh, j'avais des messages pour vous. J'avais des bons messages pour vous. Mais je me rappelle une fois de ce que John Austin a dit à un de mes amis. Le pasteur John Austin a dit ceci. Si les gens de mon église savaient à quel moment de la semaine m'arrivait et me venait l'inspiration des messages, mon église prierait beaucoup plus pour moi. Quoi que j'avais compris, attention, c'était un prince des prédicateurs. Amen. Je pense qu'il avait sa prédication juste avant d'entrer sur le pupitre, tellement le Seigneur travaillait son cœur. Le psaume 121, le psaume, ça se trouve entre la Genèse et l'Apocalypse.
C'est vrai?
Ouais. Et le 121 précède le 123. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Hallelujah! Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En 1978, un chanteur français avait écrit une superbe chanson qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Vous connaissez? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là, vers toi, Maranatha, viens Seigneur, viens, là où tu es, je t'en prie, avec toi, amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Non, il faut comprendre un petit peu le psalmiste là. Le psalmiste se trouve dans le sud, comme chez vous. Ouh, ouh, qui fait beau chez vous. Mais pourquoi on ne peut pas mettre Nice à Lugano, ce serait beaucoup mieux pour nous. Ah non, laisse encore là, laisse, on va prendre la mer, on va la porter à Lugano. Hein? Et donc, il lève les yeux vers les montagnes. Il est accablé de problèmes, de difficultés autour de lui. Il lève les yeux vers les montagnes et il voit des choses sur les montagnes. Non, vous comprenez cela, peut-être qu'ici vous le voyez un petit peu. Mais au plus vous allez dans le sud de l'Europe, au plus vous voyez des choses dans les montagnes. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle des hauts lieux. Il y a ce qu'on appelle des petites cryptes ou des petits, comment on appelle, des petites niches dans lesquelles il y a toutes sortes d'idoles, etc. et tout. Et le psalmiste regarde et dit, je lève les yeux vers les montagnes et quand je regarde toutes ces idoles, je me dis, mais d'où va venir le secours? Alléluia! Aucune idole ne peut me donner le secours. Amen. Alors il dit, je vais lever les yeux un peu plus haut. Amen. Vers le Créateur des cieux et de la terre. Le monde a toujours des difficultés et pour une raison ou pour une autre, le monde cherche toujours l'aide. Là, il ne faut pas la trouver. Il cherche l'aide, par exemple, chez un homme politique. Oh, ça va être notre nouveau Messie. Il cherche l'aide chez une grande figure religieuse. Oh, celui-là. Oh, quand il devra le chef de son église. Ah, la paix viendra. Quelquefois, on regarde aussi l'aide dans toutes sortes d'aides naturelles. Mais le psalmiste dit non. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Dans Timothée, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Dites avec moi, les temps seront difficiles. Mes amis, on ne doit pas se leurrer. On ne peut pas faire la petite tête d'autruche, dire, oup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein, Candide, hein? Oup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein? nier la réalité. La Bible dit, la Bible ne nous enseigne pas à nier la réalité.
Amen.
La Bible nous enseigne à l'ignorer. C'est un petit peu différent. Amen. On ne la nie pas, mais on l'ignore. Elle est là, mais elle ne doit pas nous embêter, parce que nous allons voir au-dessus des montagnes. Et nous allons regarder l'Éternel des armées. Amen. Hein? Et donc ce matin, j'aimerais bien voir avec vous quelque chose d'important que j'ai appelé 7 lieux stratégiques. Dites avec moi, 7 lieux stratégiques.
7 lieux stratégiques.
Voilà. Où jeter le regard lorsque vous priez. Wow. Voyez-vous, dans le monde, les gens prient soit vers Jérusalem, soit vers la Mecque, soit vers Rome. Ça, c'est pas vrai. Vous allez quelque part, on dit, il est où le sud? Il est où l'est? Il est où l'ouest? Et surtout, si vous n'avez pas de boussole, c'est un peu plus compliqué. Hein? Alors, vous regardez un petit peu vers le soleil, mais le problème, c'est que, en tout cas, en Belgique, chez nous, il n'y a pas jamais de soleil, il n'y a que des nuages. Il est où le soleil? Etc. Et tout. Et on cherche, je dois prier vers ça. Et savez-vous quoi? On ne doit pas prier vers aucune de ces choses-là. On doit prier vers le Seigneur. Amen. Pourtant, la Bible nous montre qu'il y a des lieux stratégiques vers lesquels poser le regard lorsque nous prions. Amen. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ce matin. 7 lieux stratégiques où poser le regard lorsque vous priez. Amen. 7 lieux stratégiques qui vont débloquer les fleuves d'eau vive qui sont en vous. Amen. Et qui apporteront la joie dans la cité. 7 lieux stratégiques. Cet message que je vais vous donner ce matin peut bouleverser votre vie pour toujours. Parce qu'il va vous aider à ne pas être dépendant des autres, à ne pas être dépendant des hommes, ni d'une figure politique ou d'une figure religieuse, ou même pas de l'État-providence. Amen. Mais il va nous apprendre à être dépendant de Dieu. Amen. Je parlais il y a quelques semaines avec une dame qui avait 11 enfants. Je dis, oh, exactement comme vous. J'ai dit, oh, 11 enfants. J'ai dit, waouh, vous êtes courageuse. Elle dit, non. Non, non, pasteur Donato, qui m'a dit, mais je peux vous assurer une chose, avoir 11 enfants, ça m'a appris à prier. Alléluia. Je crois que c'est vrai. Avoir 11 enfants. Et avoir 3 enfants. Ça m'a appris à prier aussi. Amen. C'est vrai. Et dans la vie de tous les jours, on doit apprendre à prier. Et donc, je voudrais qu'on voit ensemble 7 points stratégiques, 7 lieux stratégiques où nous allons pouvoir jeter le regard lorsque nous prions. Numéro 1. Lorsque vous priez, jetez le regard en haut. Alléluia. Vous levez la tête. Et vous jetez le regard en haut. Vous commencez à lever les bras vers l'Éternel, à lever les yeux vers l'Éternel. Et alors que vous levez les bras, que vous levez les yeux, savez-vous, en général, lever les bras, c'est une indication, un acte extérieur qui veut dire que vous élevez votre cœur à Dieu. Amen. D'ailleurs, quand vous aimez quelqu'un, vous... Quand vous détestez quelqu'un, vous... Juste. Et là, vous aimez Dieu et vous lui levez le regard. Et en levant le regard, vous connectez avec Dieu. C'est un petit peu comme si vous avez une connexion Bluetooth. Et tout d'un coup, pendant la prière, avec cette connexion Bluetooth, vous allez commencer à télécharger. Wow, télécharger toutes les ressources spirituelles que Dieu a pour vous. Amen. Et on ne peut pas prier si on ne fixe pas les regards sur Jésus-Christ. La Bible dit d'ailleurs, si votre foi n'est pas encore à son point, maximal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi au point maximal? Bonne question, cela. Pas encore. On veut aller pour atteindre le but. Mais la Bible dit que nous fixons les regards sur Jésus, qui est l'auteur, et celui, j'aime bien cette traduction-là, qui perfectionne notre foi. Hallelujah. Amen. Amen. Et donc, nous allons lever les regards vers en haut et dire, Seigneur, nous nous connectons à toi. Amen. Et on se connecte à Dieu. Et une fois qu'on est connecté à Dieu, on reste connecté. Amen. Et c'est comme quand on va sur l'Internet. On va sur l'Internet, maintenant on a la DSL, n'est-ce pas, hein? On va sur l'Internet, on va voir nos emails, on a fini de voir nos emails, on va travailler, mais l'Internet reste connecté. Amen. Comme ça, les autres emails peuvent continuer à venir. Restons toujours connectés avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est là, il est avec nous et il nous veut du bien. La Bible dit que les temps de la fin seront difficiles. Jésus dit, lorsque vous entendrez ces choses, lorsque vous verrez ces choses commencer, il dit, redressez-vous, levez la tête, alléluia, parce que votre délivrance arrive. Amen. Notre délivrance arrive lorsqu'on se redresse et qu'on lève la tête. Amen. Hein? Dans le psaume 3, le psalmiste dit, tu es ma gloire, et quoi? Tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Oh, je me souviens très bien de ce passage et vous le connaissez peut-être. C'est un passage dans 2 Chroniques au chapitre 20. Lorsqu'un homme qui s'appelait Jéhoshaphat, il était le roi d'Israël. Et là, il était entouré d'une coalition de 3 armées contre lui. Les Moanites, les Ammonites, qui ça d'autre ? Et les Moabites, et tous se sont dressés contre eux. Ils étaient beaucoup plus nombreux, peut-être de l'ordre de 1 à 10 contre 10. Ils étaient tellement nombreux. Et au départ, il a eu peur. Il a tremblé. Et puis il a dit, Seigneur, nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Quand vous ne savez pas que faire, mettez vos yeux sur Jésus-Christ. Hein? Premier point important, premier lieu stratégique vers lequel portez vos regards en haut. Alléluia.
Amen.
Et lorsque Jéhoshaphat a porté ses regards en haut, il a fait une chose extraordinaire. Parce que lorsqu'on porte nos regards vers le Seigneur, il n'y a qu'une chose qui peut venir en nous, c'est la prière et l'adoration. Amen. Il a prié, il a adoré le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a ces chants en anglais, mais je vais vous le traduire en français, qui dit « Loue ton Dieu, car Dieu travaille avec ceux qui louent leur Dieu. » Amen. Et puis il dit « Et loue ton Dieu, car la bataille est gagnée. » Amen. Loue ton Dieu, et parce que l'œuvre est déjà accomplie. C'est ce que nous allons faire. Tu connais pas cette chanson? Praise the Lord, la 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 la. He can do with the... Oh, non, anyway, c'est pas grave. Praise the Lord, alléluia. Loue ton Dieu, amen. C'est un chant des années 70. Vous n'étiez pas encore né, pasteur, c'est pour ça. Amen. 7 lieux stratégiques où jeter les yeux lorsque vous priez. Le premier lieu, c'est regarder en haut. Deuxième lieu, regardez en soi. Non, pas regarder en soi pour commencer à se dire oh, « Regarde-moi qui je suis oh. ». Non, regardez en soi pour savoir qui vit en vous et qui vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. On doit pouvoir savoir qui nous sommes en Christ. Un des grands ennemis de la foi, c'est le fait qu'on ne sait pas qui on est en Jésus-Christ. On ne sait pas que nous sommes ambassadeurs pour Jésus-Christ. On ne sait pas qu'en Christ, nous avons la victoire. On ne sait pas que Christ nous a donné toute la victoire. En toutes ces choses, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et donc, nous allons voir qui nous sommes. Nous allons nous rappeler de qui nous sommes. Nous allons en regarder en nous et dire, eh non, 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 moi, je ne suis pas un paumé. La Bible dit que je suis la tête et pas la queue. Amen. Je suis le plus grand et pas le plus petit. Amen. Je suis fort, plus que vainqueur. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ. On peut dire, attention, personne ne franchit la barrière, parce que si, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, on commence à dire qui nous sommes en Christ. Et rappelez-nous, la Bible dit, vous les avez vaincus, mes petits-enfants, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Attention, attention, c'est très important ceci. Parce que quelquefois, il y a quelques confusions chez pas mal de chrétiens. À savoir qu'en eux, il n'y a pas que Dieu. Et alors, ils vont faire la chasse aux démons. Ils font la chasse aux démons. Moi, ce que je trouve merveilleux dans ce verset, c'est que Dieu nous dit exactement qui vit en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est à côté de nous. Non. Celui qui est en nous est plus grand que qui ? Que celui qui est où ? Dans le monde. Satan n'habite pas en nous. Ce n'est pas un bon colocataire. Amen.
Amen.
Le Saint-Esprit a besoin d'espace. Il a besoin d'un appart 350 mètres carrés, avec piscine, avec terrain de tennis. Amen. Et il n'y a pas de place pour le concierge. Alléluia. Quand vous êtes enfant de Dieu, Vous ne pouvez pas avoir une confusion à ce sujet-là. Vous n'avez pas une double nature. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous êtes une nouvelle nature en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit que la nature de Dieu est devenue votre nature. Vous êtes devenu participant de la nature divine. Alléluia! Amen! Ouh. Deuxième lieu stratégique, vers où jeter le regard lorsque je prie, c'est me dire, je suis en train de prier, mais je ne dois pas oublier, je ne suis pas un assisté, je suis un assistant. Amen! Je ne suis pas un paumé, je suis un paumant. Ça n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Alléluia! Je ne suis pas en dessous, mais je suis au-dessus. Amen! Je lève la tête. Je ne suis pas dans la honte, marchant la tête basse, et dire, oh Seigneur, je suis un petit méchant, je suis un drôle de bonhomme, oh là là là, je suis un pécheur sauvé par... Un sauveur sauvé par grâce? Non, la Bible, chaque fois que la Bible parle de vous en tant que pécheur, c'est toujours au passé. J'étais un sauveur. J'étais enfant de la colère. J'étais ennemi de Dieu. Mais maintenant, je suis la justice de Dieu. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Maintenant, je suis fils de la lumière. Vous ne verrez jamais l'apôtre Paul, jamais l'apôtre Jean, jamais l'apôtre et tous les autres apôtres, hein, Pierre et les autres. Aucun de ces apôtres, vous les verrez dire de vous, « Bonjour pécheur, sauvé par grâce. » C'est comme si vous avez... La chenille qui vient. Suis-je une chenille. Et tout d'un coup, il y a le papillon qui arrive. Suis-je une chenille avec des ailes. Est-ce qu'un papillon, c'est une chenille? Non. Allez à l'école et on vous le dira. Non, le papillon était une chenille, mais maintenant, c'est un papillon extraordinaire. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'êtes pas des pécheurs, vous l'étiez, mais maintenant, vous êtes la justice de Dieu. Dieu vous a donné la possibilité d'entrer dans sa présence comme si vous n'aviez jamais péché dans votre vie. Sachant qu'il vous a donné le pardon de vos péchés. La Bible dit aussi, si maintenant, quand il vous arrive de pécher, la Bible dit, vous demandez pardon, vous admettez que vous avez péché, vous confessez votre péché, vous dites, Seigneur, oh Seigneur, j'ai raté de nouveau. Amen. Je dis, Seigneur, en effet, je n'aurais pas dû faire ça. Je demande pardon. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste. Alléluia. Pour nous pardonner de tous nos péchés. Amen. Et de remarcher dans cette communion avec Dieu comme on ne l'a jamais eu avant. Alléluia. Dieu est tellement bon avec ça. Amen. Donc, deuxième lieu stratégique, c'est que je vais voir qui je suis en Christ. Je me rappelle qui je suis. Amen. Et je me rappelle que même si je me sens des fois un petit peu abattu, celui qui est en moi est toujours plus grand que celui qui est dans le monde.
Amen.
On ne projette pas sur Jésus ce que des fois nous ressentons. Amen. Peut-être que nous, on se sent un petit peu abattu, mais Jésus ne se sentira jamais abattu. C'est toujours le même qui dira, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, je tiens en mes mains les clés du séjour des morts. Amen. J'ai gagné. Amen. C'est lui qui vous dira à un certain moment que votre cœur ne se trouble point, car j'ai donné la victoire.
Amen.
Nous avons la victoire.
Amen.
Et la Bible dit que la victoire vous appartient.
Alléluia.
Ouh, alléluia. Amen. Sept lieux stratégiques. Où jeter le regard lorsque nous prions? Nous regardons en haut. 2, nous regardons en nous, à l'intérieur, en soi. 3, nous regardons derrière nous. Attention, quand je dis derrière nous, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. On ne va pas regarder derrière nous pour dire « Oh, on va retourner en Égypte, où fait mieux ?» On ne sait pas regarder derrière nous pour dire « Oh, le bon vieux temps. Oh, pasteur, tu te rappelles il y a 40 ans ?» Non, lui, il n'a que 23 ans. Pardon, tu te rappelles il y a 23 ans ? D'ailleurs, il a encore la tête d'un petit bébé, encore son cheveu.
Merci.
Moi, j'ai encore des murs sur ma tête et un petit toit, et un petit peu des trous, hein, mais quand même, ils sont encore là. Hein. On t'aime bien, pasteur, vous savez. Hein. C'est pas un manque de respect vers lui. Amen. Mais on se dit, oh, que c'était beau, le beau vieux temps. Oh, quand il y avait encore des trams. Des trams. Oh, quand les voitures étaient tirées par des chevaux. Alors, c'est vraiment romantique. Mais ce qui sort derrière des chevaux, c'est pas trop romantique. De temps en temps, on essaie trop de regarder en arrière. Et c'est pas comme ça. C'est pas de ça qu'on est en train de penser. On est en train de dire, regarde en arrière pour te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Rappelez-vous, lorsque David vient devant le roi Saül, et il dit, je vais me battre contre ce géant Goliath. Rappelez de cela? Et le roi dit, non, tu ne peux pas, tu es trop jeune. Et David retourne en arrière, dans ses pensées, dans son imagination. Il dit, majesté, il dit, attends, ne dites pas que je ne suis pas capable. Quand l'ours est venu, et qu'il a arraché la brebis, c'est avec mes propres mains que je l'ai tué. Et puis quand le lion est arrivé, et que déjà la brebis était dans sa gueule, il n'y a peut-être que presque plus qu'une patte qui ressortait. J'ai tué le lion avec mes mains. Si Dieu m'a donné la force pour tuer l'ours et tuer le lion, il me donnera la force pour tuer ce géant. Hallelujah. Nous regardons en arrière et nous nous rappelons des bienfaits de Dieu. Non, entre nous, moi je suis convaincu de ce que je vais dire et je suis convaincu que vous allez pouvoir vous identifier avec ça. Mais il est arrivé dans ma vie où ma femme et moi on se retrouvait dans une situation où on se disait, mais comment on va faire cette année? On n'arrive plus. Financièrement, ça ne va pas. On risque d'avoir les huissiers qui viennent chez nous. Seigneur, si ça continue comme ça, on va se retrouver à la porte. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de penser comme ça, parce que les faits étaient là. Vous savez quoi? On a toujours mangé, les huissiers ne sont jamais venus, on n'a jamais été tiré à la porte. Amen. Et 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, chaque année, Dieu a été fidèle. Amen. Et si vous dites, oh Seigneur, comment je vais faire pour payer telle facture? Vous allez voir, la fidélité de Dieu est grande. Il y a ce très beau chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». D'ailleurs, j'ai compris en chantant ce chant pourquoi c'était bon d'aller à l'école. Parce que ça nous apprend à compter les bienfaits de Dieu. Amen. Vous vous rappelez de ce chant-là qui dit ceci? « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Hallelujah. Le psaume 103 dit ceci. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Bénis l'Éternel, c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, celui qui te guérit de toutes tes maladies, et c'est celui qui va te faire vieillir et tu vas faire rajeunir dans ta vieillesse. Amen. Et c'est lui qui te comblera de bien. Compte les bienfaits de Dieu, parce que Dieu te bénit physiquement, il te bénit spirituellement et il te bénit matériellement.
Amen.
Amen. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Compte tous les bienfaits de Dieu. Amen. Et nous apprenons à compter les bienfaits de Dieu. On est là et on dit, Seigneur, tu es avec nous. Amen. Hein, la Bible dit dans 2 Corinthiens, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous délivrera et c'est lui qui nous délivrera encore. Alléluia. Il nous a délivrés, il nous délivrera et il nous délivrera encore. Amen. Nombreux sont les afflictions et les tribulations de chrétiens. Et Paul dit, et mes tribulations, mais Dieu m'a délivré de toutes. Amen. Dieu m'a délivré de toutes. Lorsque Daniel est entré dans la fosse aux lions, il n'est pas entré en pleurant, il n'est pas allé entrer dans la peur, il a regardé à l'en-haut, il a regardé à l'intérieur, il a regardé derrière lui, et quand le roi est venu, il dit, Daniel, es-tu encore vivant? Ton Dieu t'a-t-il délivré? Et Daniel dit, hey, mon roi, comment vas-tu? Viens, venez voir tous les petits chats à côté de moi. Ces lions sont devenus comme des petits chats. Alléluia. Des petits chatons qui faisaient un petit peu... Mais c'est quand même des chatons. Alléluia. L'ennemi est comme un lion rugissant, mais ce n'est pas un lion rugissant. Amen. Et devant Dieu, avec l'aide de Dieu, vous allez pouvoir fermer la gueule du lion et dire, Seigneur a toujours été avec moi. Il a été toujours fidèle avec moi. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Numéro 1, sept lieux stratégiques pour jeter le regard lorsque vous priez. Numéro 1, nous regardons en haut. Ensuite, nous regardons en soi. Ensuite, nous regardons absolument. En, numéro 4, quand vous priez, jetez le regard de l'autre côté de la montagne. Dites avec moi, de l'autre côté de la montagne. Amen. Un jour, le Seigneur m'a dit, si mon peuple réussissait à regarder de l'autre côté de la montagne, ce qu'il y a de l'autre côté, cela leur motiverait à aller dans la parole et faire grandir leur foi. Alléluia. Parce que c'est par la foi que nous transportons les montagnes. Vous êtes d'accord avec moi? De l'autre côté des montagnes. Rappelez-vous ce que David a fait. David arrive. J'ai besoin, il est où? Un tout grand, tout grand, tout grand, tout grand. Qui c'est le tout grand ici? Yvan, il est où Yvan? Ouh, ouf, ouf, ouf. Ouh, il est grand celui-là. Oh, celui-là aussi il est grand. Aïe, 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 aïe. Pour être encore plus grand, vous vous mettez là-dessus s'il vous plaît. Merci. La Bible dit, je vous présente Goliath. Bon, il était un peu plus fort que vous quand même. Hein? Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. La Bible dit que Goliath est là. Il défie l'armée de l'Éternel. Constamment, il défie l'armée de l'Éternel. Et la Bible dit que toute l'armée de l'Éternel, toute l'armée d'Israël tremblait devant lui. Tremblait. Et David arrive. Et la première chose que David fait quand il entend ce géant, cet circoncis, ce païen, se moquer de Dieu. Se moquer de Dieu. Pauvre garçon, je l'ai dit païen. Ne croyez pas que c'est un païen, ce n'est qu'une image. Hein. C'est pas lui, c'est Goliath le païen. Hein. D'accord, hein. D'accord. il me fait penser, dans Rien à déclarer, un gars qui doit faire passer, faire la contrebande, et le patron lui dit, mais fais la tête de quelqu'un de trop gentil, de non coupable. Et le gars dit, je sais pas faire le non coupable, je suis coupable toute ma vie, moi. Ça, c'est pas grave. Et donc, voilà qu'il est là. Et la première chose, une fois qu'il entend ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, la première chose que David fait, c'est qu'il va voir ce qu'il y a de l'autre côté du géant. Qu'est-ce qu'il dit? Il va chez quelqu'un, on dit, mais qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tue ce géant? Alors là, le roi, les gens lui disent trois choses. Le roi le couvrera d'or. C'est le seul moment dans votre vie où ça vaut la peine d'être grand et gros. Parce que vous êtes plus couvert, il y a plus de superficie à couvrir. Donc, on le couvrira d'or. Deuxièmement, le roi exemptera son père de taxes, qui est très mieux, parce qu'à quoi ça sert d'être couvert d'or si après 70% s'en vont en taxes. On est d'accord, hein? Et avis. Et troisièmement, le roi lui donnera sa fille. Quand il entend le roi donnera sa fille, il y a ses yeux qui sortent de ses orbites. Il va voir de l'autre côté de la montagne. Amen. Entre vous et votre bénédiction, il y a toujours un géant. Amen. Regardez de l'autre côté du géant. Voyez la bénédiction. Puisez la foi dans la parole. Coupez la tête au géant et prenez votre bénédiction. Amen. Hallelujah. Hein? Ne coupez pas la tête de... Comment vous appelez-vous?
Yvan.
Très bien. On ne va pas couper sa tête. Ce n'est pas le géant, ce n'est pas Goliath, c'est Yvan. D'accord? Non, parce qu'il y a des fois des gens qui, quand ils voient certaines choses, ils ne comprennent plus la chose entre fiction et réalité. Donc ici, c'est la fiction, mon frère. Hein? D'accord? Hein? Mais entre vous et votre bénédiction, il y a toujours un géant. Il y a toujours une montagne. Prenez votre foi en action. Mettez-la en action. Brisez la puissance de la montagne. Coupez la tête du géant. Mettez-le par terre et saisissez votre bénédiction. Elle vous appartient. Amen. Merci beaucoup. On peut applaudir Yvan. Je crois qu'il a fait un travail génial. Alléluia. Voyez-vous, nous ne pouvons pas agir comme ont agi les 10 espions. Moïse envoie 12 espions. Et 10 d'entre eux arrivent et reviennent et ils donnent un rapport. Ils disent, oh Moïse, oh quel pays. Ouf, Dieu avait raison. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, Dieu, ah, on voit bien l'humour de Dieu là. Dieu a omis de nous dire que dans le pays, il y a des géants. Et qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Bonne question, qui c'est qui leur a dit? Ils n'ont pas vu les géants. Les géants n'ont pas parlé avec eux. Mais eux se sont fait une image de sauterelles. Écoutez-moi ceci. Quand on parle de sauterelles, ne vous comparez jamais à une sauterelle, mais faites comme Jean-Baptiste, mangez les sauterelles.
Amen.
Amen. Ah bon, là, les gens, ils n'aiment pas manger les sauterelles, je vois ça directement. Amen. Vous n'êtes pas des sauterelles. Alléluia. Mais voyez-vous, ce qui se passe souvent, c'est qu'on compare nos problèmes avec Dieu, ou avec nous-mêmes plutôt. On se dit, oh, regarde mon problème comme il est grand. Regardez un petit peu ce petit bouchon. Il est grand ou il est petit? Non, vous dites la vérité. Il est grand ou il est petit?
Petit.
Il est petit. Disons que c'est mon problème. Est-ce qu'il est grand ou il est petit? Tout petit. Amen. Pourtant, si je le mets dans une certaine perspective, ce problème devient très, très grand. Regardez-moi ça. Pasteur! Mon problème est grand! Aide-moi, pasteur! Et le pasteur dit, mais non, Donato, ton problème n'est pas si grand que ça. Oh, pasteur, on voit que tu ne comprends rien, toi. On voit que toi, tu vis bien, mais regarde, mon pasteur, moi, mon problème est trop grand. Aidez-moi, pasteur. Et d'autres, c'est le pire, ils ont deux problèmes. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Oh, pasteur, pasteur, si jamais tu savais. Oui, pour toi qui es un homme de Dieu, c'est peut-être petit, mais pour moi, que c'est un tout petit homme, mais pour que c'est tout grand. D'ailleurs, si je dors sur mon côté droit de la tête, l'autre reste toujours ouvert et je vois mon problème. Je dors de l'autre côté, l'autre reste toujours ouvert, je vois mon problème. Pasteur, mon problème est trop grand. Et puis, c'est pas tout parce que le pasteur vous dit, mais enfin, on va prier ensemble, on va croire ensemble. Mais pasteur, j'ai pas la foi pour ça. Tu te rends pas compte, pasteur? C'est tellement grand. Et à force de dire que c'est tellement grand, votre problème s'est grandi encore plus grand. On a l'impression que vous avez une loupe maintenant entre les yeux et votre problème. Et vous dites, pasteur, moi je ne peux pas accepter, pasteur, vous me dites toujours que mon problème, ce n'est pas si grand que ça. Pasteur, si c'est comme ça, moi je quitte cette église parce que moi je ne veux pas. Moi j'ai besoin d'aller dans une église où on me dit, c'est vrai qu'il est grand ton problème. Je suis vraiment désolé pour toi. J'ai vraiment... Oh, viens, tu sais quoi? On va faire une soirée d'apitoiement ensemble. Oh, viens, viens, il est où? Il est où, Peter? On va pleurer ensemble. Regarde, écoute, tu sais, Peter, mon problème est tellement grand que je ne vois même pas ton problème. Mais quand même, Peter, il est où, Peter? Je ne le vois même pas, lui. Pourtant, il n'est pas petit, hein? Mais Peter, je ne vois pas ton problème et tu ne vois pas mon problème. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une soirée d'apitoiement par la foi. On va croire par la foi qu'on a tous les deux un gros problème. Moi, je sais que j'ai un gros problème. Attention, hein. Il est très grand, mon problème. Il est où, mon problème? Non, ne prends pas mon problème, je ne veux plus mon problème. Hein? Moi, je sais que j'ai un gros problème, mais je ne suis pas certain que tu as un gros. Mais par la foi, je vais croire que tu as un gros problème. Vous pouvez vous asseoir. Merci, oui. Peter. Ouais. Dis à ton voisin, je pensais qu'il parlait de toi aujourd'hui. Occupé toute la journée avec mes problèmes. Alors, il y a des gens, quand ils ont un problème, au lieu d'en faire de leur problème quelque chose qui dure un moment, ils en font un monument. D'ailleurs, ils le portent tout le temps avec eux. Maintenant, ils ont carrément des sacs de serpents, faits en serpent. Ils ont des écharpes faits en serpent. Ils disent, regarde mon petit problème. Et tout ce qu'on fait, c'est s'amuser à faire des soirées d'apitoiement. Et la Bible nous montre qu'on ne doit pas faire des soirées de ce que j'appelle des pity parties, des talk shows d'apitoiement. On doit faire des talk shows, ou plutôt pas des reality shows, mais des verity shows. Amen. Quand je vais chez mon frère Pierre, on va se lever de nouveau. Peter, levez-vous de nouveau. Moi, j'en ai un et toi, t'en as un. On va en partager. Comme ça, on va se voir au moins. Allez, regardez Peter. Oh, donnez-lui un applaudissement, qu'il est beau. Moi, ce que j'aime bien avec Peter, c'est un homme de foi. Déjà, il a des gros problèmes devant ses yeux, mais il sourit. Ça, c'est la foi. Amen. La Bible dit, quand vous avez des épreuves, considérez-les comme un sujet de joie. Ce n'est pas un sujet de joie. Imaginez-vous. Qui c'est qui aime les épreuves? Vous aimez les épreuves, vous? Seigneur, on va prier pour les sadiques et les masochistes aujourd'hui. Par contre, la Bible dit, la meilleure manière de se libérer du poids de l'épreuve, c'est de l'affronter avec la joie du Seigneur. La Bible dit, c'est que la joie du Seigneur sera ta force. Amen. Et donc, on a tous les deux un problème. Le mien, honnêtement, est beaucoup plus grand que le sien, mais devant nos yeux, ils ont la même taille. N'est-ce pas?
Absolument.
Exactement. La même taille. De toute façon, ils couvrent tout. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas dire, tu sais, regarde ton problème et mon problème. Il est blanc. Regarde, quel gros problème blanc. Presque transparent. Mais de toute façon, je ne vois pas. Non, tu dis dans le nom de Jésus. Quel que soit mon problème, j'ai une chose à faire. C'est qu'au lieu de dire à Dieu combien grand est mon problème, on va dire à Dieu, à notre problème, comment grand est notre Dieu.
Amen.
Alléluia.
Oui.
Amen. Alléluia. Amen. Allez, vous pouvez applaudir, Pasteur Pierre. On va dire à Dieu, on ne va pas aller vers notre problème, on ne va pas aller vers Dieu en lui disant, oh Dieu, mon problème est si grand. Mais on va aller vers notre Dieu, et vers notre problème, pardon, et on va lui dire combien grand est notre Dieu. On recommence? On ne va pas aller vers notre Dieu pour lui dire comment il est grand notre problème. On va aller vers notre problème, on va l'affronter, la bouche ouverte, et on va lui dire comment grand est notre Dieu.
Amen.
Allez, qui veut mon problème? Prenez-le, c'est pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va récapituler. 1. Regardez en. 2. En soi. 3. 4. De l'autre côté de la montagne. 5. Regardez autour de vous. La Bible dit que un homme de Dieu est là. Et il est découragé. L'attaque est là, est prête. L'armée est prête. Et tout d'un coup, un ange de Dieu apparaît. Et le frère dit, « Qui es-tu? Es-tu avec nous ou es-tu contre nous ?» Et l'ange lui répond et lui dit, « Je suis le capitaine de l'armée de Dieu. » Hallelujah. Vous regardez autour de vous et vous savez que le chef de l'Église est autour de nous. Amen. Vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Dans 1 Pierre, Pierre dit que nous devons être sobres et veillés parce que le diable est comme un lion rugissant qui rôde pour savoir qui il peut dévorer. Si vous comprenez le français, vous comprenez les nuances. Savoir qui il peut dévorer veut dire qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Amen. On doit savoir qui on peut dévorer. Et la première clé, c'est qu'il peut dévorer ceux qui ne sont pas sobres. Sobre, le contraire de ivre. Et je ne suis pas en train de parler, attention, c'est important, je ne suis pas en train de parler uniquement d'alcool ici. Je suis en train de parler de équilibre. Être sobre, c'est de l'équilibre doctrinal. Amen. Quelquefois, on se laisse tomber dans des erreurs doctrinales, peut-être parce qu'on prend une doctrine et on la met plus haut que les autres, n'est-ce pas vrai? Et on commence à s'accrocher sur ça, et on oublie qu'il y a encore toute autre chose à côté de nous. Je donne un exemple, très simple. Certains vont dire, ah mais moi, vous savez, pasteur, j'ai plus besoin de venir à l'église, parce que moi, je suis membre de l'Église universelle. Oh, je suis né nouveau. Tous ceux qui sont nés nouveaux dans le monde sont membres de l'Église universelle. Et c'est vrai, on est membre de cette Église universelle, mais la particularité de l'Église universelle, c'est qu'elle n'est pas visible. Amen. Et elle est visible que d'une manière, par les églises locales. Amen. Donc je ne peux pas dire, père, pasteur, je ne dois pas aller à l'église, parce que j'ai besoin d'une église locale avec qui je peux dire, ça c'est ma compagnie, c'est ma famille, ce sont mes amis, c'est avec eux que je décide de grandir, de peut-être défiler le fer, hein. De temps en temps, il y a des petites frictions, etc. et tout, mais on va faire en sorte que ces frictions vont faire quelque chose de bien dans notre vie, elles vont nous améliorer, amen. Hein? C'est ici que je vais rendre des comptes, etc. et tout. Il y a un autre extrême qui dit, oh pasteur, moi je ne crois pas dans l'église universelle. D'ailleurs, c'est simple, le salut est que dans mon église. Voyez-vous, on ne peut pas entrer dans ce genre de déséquilibre. Parce que si on rentre dans ce genre d'équilibre, de déséquilibre, on aura toujours des problèmes. Et le diable pourra commencer à nous dévorer. Amen. C'est un petit peu la même chose entre ceux qui disent « Oh, pasteur, tu dois m'aider. Oh, le démon me fait toujours pécher. Aide-moi pour chasser les démons. » Alors, et l'autre qui dit « Non, tu crucifies ta chair. » Alors, je sais que c'est beaucoup plus simple de dire « Démon, je te chasse de ma vie » que de dire « Chair, je te crucifie. » Amen. Mais si vous marchez un petit peu assez longtemps dans le corps de Christ, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de démons que ce qu'on pense. D'ailleurs, chez moi, les démons ne me fréquentent pas. Ils n'aiment pas mon adresse. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis fréquenté par les anges de Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, il y en a un, il est tellement sympa qu'il dort à côté de moi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Il y en a qui disaient, qui dort à côté de toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que la Bible dit, hein? C'est pas moi qui raconte, c'est la Bible qui le dit. L'ange de l'Éternel campe à côté de ceux qui craignent l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui craint l'Éternel ici? Alléluia. Ben, sachez-le, à côté de vous, il y a une tente. Vous ne la voyez peut-être pas, mais là-dedans, il y a quelqu'un qui campe. Il s'appelle l'ange de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, vous regardez autour de vous et vous rappelez, vous n'êtes pas tout seul. Pierre dit ceci, donc, qui parle de ceux qui sont faibles dans la foi, n'est-ce pas? C'est là aussi, c'est les gens qui peuvent dévorer. Et ensuite, il dit quelque chose de fort. Il dit, ceux qui pensent, je paraphrase, mais ceux qui pensent qu'ils sont les seuls à souffrir ce qu'il est en train de souffrir. Je vais le voir avec vous, 1 Pierre au chapitre 5, et vous allez voir ça. Pierre dit, sachant que dans le monde, les frères souffrent. Amen. Les frères ont des difficultés. Des fois, on a l'impression que notre problème est tellement grand, que notre situation est tellement difficile, mais on n'y arrive pas. Et on dit non, ça n'arrivait pas. N'est-ce pas vrai? Ici, soyez sobres, 1 Pierre 5, 8, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une ferme foi. Amen. Sachant, écoutez ça, oh, ça c'est tellement encourageant. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et si l'ennemi peut faire une chose et vous faire croire que vous êtes seul au monde à souffrir, ou avoir ce genre de problème, il aura gagné sur vous.
Oui.
Il ne peut pas dévorer n'importe qui, mais il peut dévorer ceux qui croient qu'ils sont seuls.
Oui.
D'ailleurs, rappelez-vous, il a presque réussi avec le prophète Élie. Élie va, il est tellement désespéré, Jézabel veut le tuer, il s'assied, il prie et dit, « Seigneur, je suis tout seul, fasse que je meure. » Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quelle est la première chose que Dieu a fait? Élie,
oui,
tu n'es pas tout seul.
Amen.
Il y a 7000 prophètes qui n'ont pas plié le genou devant Jézabel et les idoles et Baal. Tu n'es pas tout seul. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'aujourd'hui, des milliers d'églises, si pas des millions d'églises dans le monde entier, louent, adorent le même Dieu,
oui,
reçoivent un message de Dieu,
oui,
et dans chaque église, Dieu a un message bien précis.
Oui.
Hallelujah. Et aujourd'hui, une des choses que le Seigneur est en train de nous dire, c'est quelles que soient les choses difficiles dans lesquelles nous passons, quelle que soit la tempête dans laquelle nous passons, nous ne sommes pas seuls à la passer. D'autres frères. Et c'est important, ça, de regarder autour de nous. Je dis, dis-moi, comment tu as réussi, toi, à t'en sortir? Amen. Et on commence à te donner un témoignage. Et je me rends compte, en écoutant son témoignage, que la situation est vraiment similaire à la mienne. Peut-être des autres circonstances, mais similaires. Et il m'a dit, bah, écoute, tu sais quoi ce que j'ai fait? Je me suis mis à prier, j'ai imploré Dieu, j'ai crié en Dieu. Mais c'est pas tout. Je n'ai pas simplement prié et imploré Dieu. Je suis allé dans la parole de Dieu et j'ai commencé à bâtir ma foi. Parce qu'il y a aussi ces deux autres extrêmes. Soit on attend tout de Dieu, soit on attend tout sur nous.
Ouais.
Si Dieu veut me bénir, quand il veut, il le fera. Oh, ne vous n'ayez pas peur, pasteur, ce n'est pas grave. Non, non, ne priez même pas pour moi, pasteur. Si Dieu veut me guérir, il me guérira. On va parler un peu le belge aujourd'hui. Hein. Et on met tout sur Dieu. Et d'autre part, on, des fois, on met tout sur nous-mêmes. Je dois prier, je dois prier, je dois prier. Et puis la prière devient de l'œuvre. Et on doit faire attention avec ces choses-là. Amen. On doit rester équilibré. Il y a un moment où on doit dire non à l'ennemi, stop à l'ennemi, mais il y a aussi un moment, et on prend notre autorité du croyant, mais il y a un moment où on doit dire, Père, j'ai besoin de toi, et on se revêt d'humilité.
Oui.
Amen.
Amen.
Tu es d'accord avec moi?
Oui.
Et donc, on regarde autour de nous. C'est le quatrième, ça, ou le cinquième?
Cinquième.
On arrive au cinquième? Non. On regarde au sixième. Ouh là 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 là. Paul dit d'ailleurs, qui sera contre nous? Amen. Hein? Qui nous résistera? Qui nous accusera? C'est Dieu qui justifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Amen.
Regardez autour de vous, qui sera contre nous? Alléluia! Alors, on regarde en haut, ensuite, aidez-moi, on regarde.
Soit derrière nous,
de l'autre côté de la montagne, autour de nous. Cinquième, sixièmement, on regarde en bas. Dites avec moi, on regarde en bas. Non, on ne regarde pas en bas en ayant honte. On ne regarde pas en bas en ayant la défaite. On regarde en bas pour nous rappeler que Satan, il n'est pas en haut, mais il est en dessous de nos pieds. Alléluia. On regarde en bas parce que nous regardons non d'une position de défaite, mais d'une position de victoire. Nous sommes où? Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, à la droite du Père. Nous sommes assis avec Christ sur le trône de l'univers. Alléluia. Aujourd'hui, à la réunion de prière, on nous parlait de la domination que Dieu nous a donnée. Nous sommes, il y a Dieu qui domine, mais nous aussi nous dominons. Amen. Nous avons cette domination contre la puissance des ténèbres. Nous avons la domination contre les circonstances. La Bible dit que ceux qui ont reçu le don de la grâce et de la justice régneront dans cette vie.
Amen.
Alléluia. Et donc on regarde en bas. Et on dit, Satan, ouh, tu es sous nos pieds. Amen. Et Dieu dit qu'il écrasera Satan sous nos pieds. Il le dit ça dans Romains au chapitre 16. Et il dit ceci, verset 20. Le Dieu de paix viendra bientôt et Satan et écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Nous ne sommes pas des vaincus, nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas des petits, nous sommes des grands. Amen.
Alléluia.
Nous ne sommes pas des minables, nous sommes les enfants de Dieu. La gloire de Dieu demeure sur nous.
Oui.
Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. La grâce de Dieu est sur moi. Paul dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Il dit aussi, j'ai fait plus que vous tous. J'ai travaillé plus que vous tous. Et puis il se reprend. Il dit, oh, pardon. J'ai travaillé plus que vous tous. Oh, pardon. Pas moi, mais la grâce de Dieu qui opère en moi. Alléluia. Mes amis, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Je me souviens un jour, une de mes connaissances avait construit le bâtiment d'une école biblique. Il était le directeur et construisait avec toute une équipe le bâtiment de son église, de son école biblique à Porto, au Portugal. Et là, c'était la période des grands soulèvements où les gens se révoltaient et carrément, il y avait presque une petite guerre civile. Il n'y a pas longtemps, ça, on parle dans les années 70. Et des gens du monde entier sont venus lui dire « Samuel, tu dois partir ». Et toute son équipe est partie. Et Dieu lui a dit, non, je t'ai demandé de construire une école biblique. Et il commence là, et il est en train de faire les tranchées. Et des gens, certains noms vous les connaîtriez, pour vous dire, mais des gens arrivent du monde entier, lui dire, Samuel, il faut que tu partes. Et il lui dit, non, je ne dois pas partir, Dieu m'a demandé de faire ça, je ne dois pas partir. Samuel, tu ne te rends pas compte, tu es tout seul, et eux, ils sont une armée nombreuse. Et savez-vous ce que Samuel a dit? Il a dit, regarde-moi droit dans les yeux. Debout, s'il vous plaît. Merci. Je veux que tu saches que je ne suis pas seul. Oh, peut-être que dehors, je suis seul. Mais avec moi, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et toute son armée d'anges. Je ne suis pas seul.
Alléluia.
Alléluia.
Amen.
Vous n'êtes pas seul. Amen. Merci, Peter. Et que savez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont arrivés, Ils ont essayé de vouloir le prendre, mais il a été protégé par les anges de Dieu. Aujourd'hui, cette école, elle est bien bâtie. Et tout le monde est content qu'il y a quelqu'un qui a osé défier tout ce qu'il voyait. Parce que la Bible dit que celui qui a reçu le don de la grâce et de la justice règnera sur la terre, régnera dans cette vie et même sur les circonstances. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Regardons en bas. Rappelons-nous que l'ennemi est toujours en dessous de nous. Quelquefois, l'ennemi nous rappelle notre passé. Rappelez-lui son avenir.
Amen.
Tes jours sont comptés, Satan.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Je connais déjà ton adresse. Je connais l'adresse de Satan. Ça s'appelle lac de feu. J'ai fait bouillant là-dedans. Amen. Des fois, on s'imagine Satan avec plein de flammes et tout, comme s'il aime les flammes. Il n'aime pas les flammes. C'est pour ça qu'on le met dans un lac de feu. S'il aimait les flammes, on l'aurait mis dans un lac de glace. Il n'aime pas les flammes. Amen. Et il est dans un lac de feu, dans un étang de feu, et il sera là pour toute l'éternité. Je connais déjà son adresse. Satan! Oui, je connais ton adresse. Je sais où t'habites. On va bientôt, par la foi. Alléluia. Tu sais où tu vas habiter. Alors ne me rappelle plus mon passé, parce que moi je te rappelle ton avenir. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et finalement, sept lieux stratégiques vers où jeter le regard lorsque vous priez. Numéro 1, on regarde. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, en bas, numéro 7. Oh, celle-là, c'est la plus belle. Regarde avec moi Philippiens chapitre 1. Et ce passage-là, j'appelle, ce point-là, je l'appelle fixer les yeux, jeter le regard vers la moisson. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Vous dites que la moisson, c'est dans 2 ou 3 mois. Je vous le dis. Levez les yeux et regardez, la moisson est déjà blanche. Mais regardez un petit peu ce que Paul dit. Je voudrais que vraiment on puisse réaliser cela. Philippiens, chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 12. Ah, je suis dans Éphésiens, moi. Ça n'est pas ça, c'est Philippiens. Rococo galéfi kotete tititi Philémon. Rappelez de ça? On a expliqué ça à l'école biblique. Comment se rappeler où se trouvent les versets, les passages de la Bible de Paul? Rococo, ça veut dire Romain, Corinthien, Corinthien. Galéfi, Galate, Éphésiens, Philippiens. Kotete, Colossiens, Thessaloniciens, Thessaloniciens. Tititi, Timothée, Timothée, tit, Philémon. Rococo, galéfi, kotete, tititi, Philémon. Mais regardez un petit peu Paul. Et quand je vais lire ça, je voudrais que vous regardiez le cœur de Paul. Verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Paul est vraiment attaqué de toutes les parts. Il est en prison. Si on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est un pauvre gars. Même les gens qui le voient en prison sont contents qu'il est en prison. Parce qu'il sait très bien que tout le monde ne prêche pas l'Évangile en son temps, peut-être encore aujourd'hui, mais en son temps, pour les mêmes raisons que vous et moi nous prêchons l'Évangile. Mais il dit qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouirai et je m'en réjouirai encore. Hallelujah. Paul, regardez le corps de Paul. Paul dit, c'est vrai, Je suis dans un moment difficile. Je suis dans l'affliction. Ce n'est pas parce que Paul chantait dans la prison de Philippe que vous devez croire que Philippe passait toujours des bons moments. Amen. Ce n'était pas un sado. Amen. Il comprenait bien. Vous savez, personne d'entre nous, nous aimons nous retrouver dans une cellule humide. Pour les rhumatismes, ce n'est pas bon du tout. Hein. Et même quand vous n'avez pas de rhumatisme, ça fait du tort à votre corps. Personne n'apprécie tout cela. Mais Paul dit, ma seule réjouissance, ma seule joie, c'est de savoir que malgré ma difficulté, en dépit de ma difficulté, Dieu réussit à changer le mal qu'on a voulu me faire et en faire du bien pour le monde et l'avancement de l'Évangile. Alléluia. Et Dieu est là. Et mes amis, lorsque vous priez, vous devez prier en ayant les yeux sur la moisson. Et ayant les yeux sur la moisson, ça veut dire deux choses. Une, ça veut dire que le résultat de la prière est en train d'arriver. Vous ne demandez pas à Dieu, et vous ne priez pas à Dieu en ne sachant pas quelle sera la réponse. Vous connaissez déjà la réponse. Amen. La Bible dit qu'en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça. Regardez vers la moisson. On dit, Seigneur, je suis dans la prison, je suis dans la défaite, je suis mal pour l'instant. Les choses ne vont pas bien pour l'instant, mais je sais que tu es ma gloire et que tu relèves ma tête. Je sais que tu me sors de cette situation. Je sais que je trouve un travail. Amen. Je sais que je trouve un travail. Je sais que je trouve un mari ou une épouse. Amen. Amen. Je sais que je ne serai pas la risée de tout le monde. Je le crois dans mon cœur. Mais en même temps, je sais que tu peux changer le mal en bien et que l'affliction dans laquelle je me trouve peut aussi contribuer à l'avancement de ton royaume. Amen. Paul n'avait qu'un cœur. Il n'avait qu'un désir. Et j'assure, ça me désole tellement de voir certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas le même cœur de Paul et pas le même désir de Paul. Mais Paul avait une chose en tête et une chose seule. Il avait l'église locale en tête. Amen. On va le redire amen parce qu'on vous entend à la radio là. Paul avait une seule chose dans son cœur, l'église locale.
Amen.
Amen. Sur les 113 ou les 114 fois que l'Église est mentionnée dans les épîtres de Paul, 98% mentionnent des églises locales.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Certes, il y a l'Église universelle, mais elle se manifeste par chaque Église locale.
Amen.
Et Paul se dit, si par mon affliction et le fait que pendant mon affliction, j'encourage les frères, et les frères sont plus encouragés, les frères ont compris que Dieu est avec eux, que je ne dois pas me laisser abattre, mais que je vais regarder et je vais voir cette moisson, eh bien, Paul dit, qu'importe ce qui m'arrive. L'important, c'est que le nom de Jésus est prêché. L'important, c'est que l'avancement de l'Évangile est là. Amen. Amen. Vous allez voir dans votre vie que l'ennemi envoie beaucoup de choses mauvaises dans votre vie. Dieu n'envoie pas les choses mauvaises. Non. Amen.
Oui.
C'est l'ennemi qui le fait.
Oui.
Mais comme Joseph, Joseph dira un jour, ce que vous avez entendu pour le mal,
oui,
Dieu l'a changé pour le bien.
Amen.
Amen.
Oui.
Hallelujah.
Oui.
Quelquefois, on doit se rappeler pourquoi je suis ici. Est-ce que je suis ici uniquement pour penser à mes problèmes? Ou est-ce que je suis ici pour voir comment ma vie pourrait être une partie du puzzle de Dieu, des instruments de Dieu, pour accomplir son plan sur la terre. Amen. Et Paul dit, j'ai souffert, j'étais plein d'affliction, les choses allaient mal, mais Dieu a tout tourné cela pour l'avancement de son royaume.
Amen.
Hallelujah. La moisson, quand on dit on regarde la moisson, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la moisson de la prière qui va être exaucée. Vous croyez déjà que vous l'avez reçu, Marc 11, 24. Mais ça veut aussi dire l'avancement de la moisson de Jésus-Christ. Rappelez-vous lorsque Joseph a eu son rêve. Il a eu deux rêves, n'est-ce pas? Un des rêves, c'était avec des... Comment on appelle ça en français? Des gerbes, merci. Hein? Et c'est quoi les gerbes? Les gerbes, c'est une image de la moisson. Voyez, Dieu n'est pas obligé de bénir chacun de vos rêves. Mais si votre rêve est connecté à la moisson de Dieu, il bénira votre rêve. Amen. Dieu n'est pas obligé de bénir votre vision, vos ambitions. Mais si dans vos ambitions, vous avez ce désir de bénir la moisson de Dieu, alors Dieu va bénir vos ambitions. Si vous voulez une piscine, ce n'est pas un problème, mais utilisez-la pour faire des baptêmes. Ou pour inviter Pasteur Laura et Pasteur John à faire la piscine là-dedans. Amen. S'ils sont bien contents, ben, ils seront bénis eux-mêmes et vous serez bénis entre tours. Peut-être que vous dites, « Oh, moi, je veux une grosse voiture. » Ce n'est pas un problème. Mais utilisez-la pour aller prendre des gens et les apporter à l'église.
Amen.
Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un dit, « Oh, moi, j'ai une ambition. Je veux devenir un grand avocat. » Super! Soyez avocat et défenseur des chrétiens. Amen. Oh, non, non, non. Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin? Amen. Quelles que soient vos ambitions et vos rêves et vos visions, etc., Dieu n'est pas obligé de les bénir. Mais si vous les connectez avec la moisson de Dieu, il les bénira. Amen. Amen. Mes amis, sept lieux stratégiques vers lesquels fixer le regard lorsque nous prions. Numéro 1, en haut. Numéro 2, en soi. Numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, la moisson. Alléluia. Et dire, Père, tout ce que je fais dans ma vie, je veux le faire pour l'avancement de ton royaume. Tout. Je veux le faire pour l'avancement de ton royaume. Je veux que ton nom soit glorifié dans ma vie.
Amen.
C'est ce que le roi David dit un jour. Il dit, Père, donne-moi de la force dans le temps présent pour témoigner de toi à ma génération.
Oui.
Et de la force quand je serai plus vieux pour témoigner dans la prochaine génération.
Amen.
Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas que nous soyons des égoïstes, mes amis. Amen. Alléluia. Ce qu'il voudrait, c'est que nous ayons le même cœur de Paul. Qu'importe l'affliction dans laquelle on passe, on sait une chose, c'est que nous allons fixer les yeux vers la moisson. Et moi, je me dis toujours comme ça. Seigneur, j'impense un moment difficile. Ce que je veux, c'est m'en débarrasser le plus vite possible. Mais si je vois et j'arrive à discerner que dans cette situation, tu peux changer le mal en bien pour l'avancement de ton royaume, ok, je suis content, je prierai dans cette direction-là. Sinon, fais-moi sortir directement de cette situation. Amen. Regardons, ne pleurons pas directement. Trop souvent, nous prions avec notre intelligence. Je crois que c'était Sherinine qui le disait tantôt. On essaie de prier selon notre chair, ce que nous voulons directement.
Oui.
Et on oublie de se dire, Seigneur, est-ce que dans cette situation-là, tu pourrais aussi avoir un plan? Ce n'est pas Dieu qui envoie la situation. Ce n'est pas Dieu qui envoie la calamité. Ce n'est pas Dieu qui envoie la destruction. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie ou des circonstances adverses. Dieu est pour toi, il n'est pas contre toi. Amen. Hier, on a dit quelque chose de formidable, hier. On a dit quelque chose, et ça a un petit peu choqué les étudiants, mais moi j'aime bien choquer. Et on a dit, la Bible dit, car toute chose, pardon, c'est pas possible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Puis on a dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Puis on a dit, si tu peux le croire, rien ne te sera impossible. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans un sens, c'est vrai, mais dans un autre sens, ce n'est pas vrai. Alors, enfin, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Mets-toi sur le bord d'un grand bâtiment de 30 étages et dis, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et il y a la marmelade par terre. Vous comprenez? On ne peut pas dire comme ça, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Il faut voir le contexte. Le contexte, c'est toujours ceci. Toutes choses qui sont promises dans la parole de Dieu et qui t'appartiennent sont possibles à celui qui croit.
Amen.
Amen. Alléluia. C'est comme cette dame qui, avec sa sœur, elles ont une superbe maison en Suisse, un beau chalet. Le problème, c'est que devant, il y a une grosse montagne. Et donc, un soir, ils vont prier, ils disent, tiens, on va se mettre en accord. Ils disent, dans le nom de Jésus, montagne, je te dis, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et je crois dans mon cœur que ce que je dis arrivera. Et j'aurai ce que j'aurai dit. Amen. Elles vont dormir. Puis le lendemain matin, elles se relèvent. Je le savais. Elle était toujours là. Quand Dieu dit, tu dis à cette montagne, il ne parle pas des belles montagnes qu'il a créées. Mais pourquoi il va les enlever s'il les a créées? Non, mais il ne faut pas exagérer quand même. Mais Dieu est un grand architecte. Oh. Un jour, il se mettra à côté de moi, à côté de ma maison. Il dit, regarde la belle colline que j'ai faite là pour toi. Je l'ai faite pour toi, Donato. Et toi, tu es à côté de moi, tu me dis, papa, pars de la montagne. Mais qu'est-ce que c'est dire, pars de là, de la montagne? Il n'est pas en train de dire que tu dois demander aux montagnes de partir. Toutes choses sont possibles à celui qui croit, mais pas n'importe quoi. C'est comme le gars qui prie parce qu'il a vu une femme, il dit, oh, cette femme, oh, je vais me marier avec elle. Seigneur, dans le nom de Jésus, je dis, cette femme m'appartient, je crois et je la reçois. T'as oublié de dire à Dieu, d'abord, c'est à elle de décider si elle veut avec toi ou pas. Première chose.
Amen.
Amen. Hein? Mais deuxièmement, t'as oublié de dire à Dieu qu'elle était mariée. Mais tu crois que Dieu est stubitum, stubita, stubitorum? Mais Dieu sait très bien que cette femme, elle est mariée. Oui, mais je crois, qu'importe, moi je suis un homme de foi. Oui, mais le Dieu a dit, quand Dieu a mis l'alliance là, hein, que personne ne l'enlève cette alliance. Que personne ne divise ce que Dieu a uni.
Amen.
On est d'accord?
Yes.
Amen. Donc, ce n'est pas que toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est toutes choses promises dans la parole de Dieu.
Ouais.
Toutes choses qui sont écrites dans la parole de Dieu sont possibles à celui et à celle qui croit. Amen. Ma fille était née. Et on s'est vite aperçu qu'il était né handicapé. On a fait les examens au bout de 10 mois. On a fait les examens, toutes les résonances magnétiques possibles. Et les médecins nous ont dit, Monsieur Anzalone, Madame Anzalone, il n'y a rien à faire. Votre fille a ce qu'on appelle des dommages de cerveau complètement endommagé. Un virus, avant la naissance de votre enfant, est venu et a détruit les cellules de son cerveau. Toutes les cellules qui commandent le parler et le marcher et le moteur fin ont été complètement détruites. Votre fille ne marchera jamais, ne parlera jamais, aura toujours des problèmes de moteur fin. Et en fait, la durée de vie pour qui est atteint de ce virus-là, en général, c'est 14 et 15 ans. Mais la Bible dit que si la promesse, la Bible le promet, tu peux l'avoir.
Amen.
La Bible dit, si tu peux le dire, tu peux l'avoir.
Amen.
La Bible dit, si tu peux le croire, tu peux l'avoir. Si tu peux dire quoi? Si tu peux dire quoi? Tu peux dire croire quoi? Ce que la Bible dit. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, Gabriela a été guérie il y a 2000 ans sur la croix. Ce ne sont pas des fantaisies. Il y a des gens qui croient que c'est de la poésie, ça.
Oui.
Oh, que c'est beau! Par les meurtrissures. Oh, Seigneur! C'est bien ce que tu as dit là! Waouh! Si j'avais une inspiration comme toi, par les meurtrissures de Jésus, oh, c'est pas mal ça! Oh, Seigneur! Bon, on a bien compris, Seigneur, ce n'est que de la poésie, hein. Tu ne veux quand même pas dire ça. Oui, Dieu veut dire cela.
Amen.
La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Non.
Et s'il l'a dit, et vous le dites, vous pouvez l'avoir. Si vous le croyez, et vous le dites, vous pouvez l'avoir. Amen. Et pour raconter toute une longue histoire, si petite, en si brièvement, au bout de 2 ans, avant, à force de confesser la parole de Dieu, la parole, c'est la vie, mes amis.
Amen.
Le psalmiste dit dans le psaume 119, ta parole me donne la vie.
Oui.
Amen. Et nous avons créé la vie en Jésus, en Gabriela. Oui. Les cellules, je ne sais pas si elles sont revenues. En fait, si, maintenant on le sait. Parce que quand on a vérifié qu'elle était tout à fait guérie, parce qu'elle est guérie, amen. Hein? des fois, j'oublie de le dire. Mais quand on a vérifié qu'elle était tout à fait guérie, les médecins n'ont pas voulu refaire des scanners et tout. Récemment, on a dû faire un scanner, il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus pourquoi, mais il n'y avait pas de maladie, mais rien du tout. Hein. Mais il a fallu faire un examen et tout. Et le docteur, qui n'était au courant de rien, nous a dit, elle a un cerveau tout à fait normal.
Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, si tu peux le croire, tu peux l'avoir.
Oui.
Amen. Alors certains disent, oh, c'est ma grande foi. Non, c'est mon grand Dieu.
Amen. Amen.
Une chose qui m'a tellement fait du bien, c'est de voir que ma foi doit grandir, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu vient toujours rencontrer ma foi. Et votre foi aussi. Amen.
Amen.
Cet lieu stratégique où jetez le regard lorsque vous priez. Ce n'est pas à la Mecque, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas à Rome. Ce n'est même pas dans la petite niche qui est dans votre maison. Non, il n'est pas dans la maison. Mais c'est on regarde en haut, on regarde à l'intérieur de soi, on regarde derrière soi, on regarde au-delà de la montagne, on regarde autour de soi, on regarde en bas. Et on regarde à la moisson.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
Seigneur, nous te remercions pour ce moment béni que tu nous as donné ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment ensemble voir, Seigneur, se réaliser ces 7 points dans nos vies. Que chacun de nous, nous puissions les appliquer. Regarder en haut vers toi. Nous rappeler, Père, que nous allons nous connecter à toi pour downloader, pour télécharger toutes les ressources nécessaires qui viennent des cieux, Seigneur. Nous allons regarder à l'intérieur de nous et nous rappeler qui nous sommes en Christ. Nous allons regarder derrière nous et compter les bienfaits de Dieu. Nous allons regarder au-delà de la montagne et voir la grande bénédiction qu'il y a pour nous. Père, nous allons regarder autour de nous et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, mais que le chef, le capitaine de l'armée de Dieu nous soutient par sa droite triomphante, Seigneur. Nous allons regarder en bas et nous rappeler que l'ennemi est sous nos pieds et bientôt, le Dieu du ciel écrasera Satan sous nos pieds. Père, nous allons regarder au-delà et voir la moisson. La moisson de du résultat de la prière, mais aussi la moisson de la récolte pour ton royaume. Nous voulons voir cela dans le nom de Jésus. Levons-nous, s'il vous plaît. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Oh, Samala Mashamalaka. Alléluia. Je voudrais. On a déjà prié pour les personnes, je ne voudrais pas prier spécialement, mais je voudrais quand même. Je peux. Bien. Merci, pasteur. Oui. Je voudrais par contre vous encourager à prendre une décision pour Jésus-Christ. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez été dans l'un ou dans l'autre de ces points, vous avez jeté le regard dans ceci ou dans cela. Mais il y a peut-être certains regards que vous n'avez pas jetés parce que vous ne les connaissez pas ou vous avez été découragé. Si vous savez que peut-être c'est que vous n'avez pas assez regardé en bas, ou vous n'avez pas regardé assez à l'intérieur de vous, vous n'avez pas regardé de l'autre côté de la montagne, quoi que ce soit, où que ce soit, votre défaillance encore, prenez une position aujourd'hui en Jésus-Christ. Dire, Seigneur, c'est vrai que pendant plusieurs années ou plusieurs mois ces derniers temps, j'ai oublié de me rappeler qu'autour de moi, je ne suis pas seul. Ou j'ai oublié de regarder qu'en dessous de moi, Satan est déjà écrasé. Ou j'ai oublié de regarder, Père, que je veux voir la moisson et que déjà j'ai la réponse. Ou peut-être j'ai oublié de regarder vers toi. Ou bien j'ai oublié de regarder derrière moi pour me rappeler les bienfaits, etc. Quels que soient peut-être les points qui ont été manquants dans votre vie, prenez aujourd'hui une décision. Seigneur, je vais regarder les 7 points. Amen. Je vais jeter les regards vers 7 points. Amen. 7 lieux stratégiques où jeter le regard lorsque je prierai. Vous êtes d'accord avec moi? On va faire une prière ensemble et ensuite je donnerai la parole au pasteur. Père, dans le nom de Jésus, je viens à toi. Prie avec moi. Je viens à toi. Je crois, Père, que ce que tu as dit ce matin, c'est toi qui as parlé. Et je veux me consacrer, Seigneur, à jeter le regard sur ces 7 lieux stratégiques. Et là où j'ai manqué, et réfléchissez un petit peu là où vous avez manqué maintenant. Repassez ces 7 points devant vous. Et rappelez-vous où vous avez manqué. Seigneur, tu vois très bien où j'ai manqué. Et je le vois maintenant dans mon cœur. Je te demande pardon. Dites-le, je te demande pardon. Excuse-moi, Seigneur. Je me suis laissé avoir par mes circonstances. Mais maintenant, je relève la tête. Parce que tu es ma gloire. Et celui qui relève ma tête. Et je comble ces lacunes. Et à partir de maintenant, je ferai tout pour regarder dans ces 7 lieux stratégiques lorsque je prierai. Amen.